Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un homme épris de vastes horizons que Franck Ferrand a choisi de nous présenter cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. En disant cela, je ne sais si vous parlez de mon invité, Marc Menant, ou bien du personnage que nous allons faire revivre ensemble, un grand alpiniste amoureux des déserts, Roger Frison-Roche.
Ah ben je parlais de Marc Menant, bien sûr.
Bien entendu.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Emeric sur l'origine du terme peaufiné que vous employez souvent d'ailleurs.
Emeric me paraît avoir trouvé un moyen élégant de pointer du doigt mes tics de langage. Voilà une nouvelle mode. Pour le moment, à nous la montagne, à nous les déserts. Frison-Roche, nous voilà.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Lorsqu'on prononce aujourd'hui le nom de Roger Frison-Roche, le premier titre qui vient à l'esprit de ceux qui le connaissent et l'apprécient, c'est « Premier de cordée », véritable best-seller paru pendant l'occupation en 1941 et d'ailleurs adapté au cinéma dès 1943. L'alpiniste, l'explorateur, l'aventurier est surtout connu pour son amour des Alpes. Il a vécu à Chamonix presque toute sa vie et c'est là du reste qu'il est mort en 1999 sans avoir pu connaître un ultime horizon, celui du 21e siècle. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que Frison-Roche, malgré ses racines montagnardes, a aussi été, et peut-être même a d'abord été, un passionné du désert. Son premier grand voyage a lieu dans le Sahara et il va vivre pendant plusieurs années à Alger, au temps où Alger était française évidemment. Frison-Roche a effectué en tout 19 expéditions dans le Sahara et il a finalement autant écrit sur le désert que sur les montagnes. Il dira que la grande révélation de sa vie n'a pas été la montagne finalement, mais a bien été le désert. Eh bien, si vous me le permettez, c'est par là que j'aimerais commencer cet après-midi. Nous sommes en 1935, nous sommes dans les Alpes, à Chamonix, et il y a là un jeune guide de haute montagne, il a 29 ans, Roger Frison-Roche. Il reçoit dans sa brasserie une visite, il s'agit de Raymond Coche, qui est un capitaine en stage. Il est en stage à l'école de haute montagne, ce Raymond Coche, et il vient proposer une mission à Frison-Roche. La mission tient en peu de mots, partir pour le Sahara, partir pour le sud saharien exactement, dans le Haut Atlas, avec 3 autres alpinistes. Dans le détail, il s'agit de gravir la montagne la plus célèbre du Sahara central, la Gareth El Jenoun, la montagne des génies, des djinns si vous voulez, grande comme le massif de la Chartreuse, avec un sommet à 2300 mètres d'altitude et divers sommets du Haut Gard. On peut dire qu'on est dans un vaste, extraordinaire massif montagneux. Pour mener à bien cette mission, Coche a besoin des services d'un des meilleurs guides de la vallée et il semble bien que Frison-Roche soit pour lui l'homme idéal. À ce moment-là, Frison-Roche a déjà 3 enfants, il s'occupe d'une brasserie, la brasserie de La Poste qu'il a achetée 3 ans plus tôt. Il est donc guide de haute montagne, membre de la compagnie des guides, secouriste. Il rédige aussi très souvent des articles pour le Petit Dauphinois. Il faut vous dire qu'il a une plume cet homme-là. Il est à peu près aussi à l'aise devant la page blanche que devant les sommets montagneux. Dans ses reportages, il inaugure un nouveau genre de journalisme, ce qu'on va appeler la chronique neige et montagne. Ça nous paraît tout à fait habituel, normal, nous, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est une grande première. C'est un homme épris d'aventure, de nouveauté, un homme essentiellement libre et qui aime les sensations fortes. Encore une fois, je ne vous parle pas de Marc Menant, je vous parle de Frison-Roche. C'est incroyable les points communs qu'il peut y avoir entre les deux hommes. Il a planté une station radio au sommet du Mont Blanc, ce qui paraissait jusqu'alors impossible. Il a accompagné les premiers pas de l'équipe de France de ski. Il a servi d'interprète aux Jeux Olympiques de 24 à Chamonix, etc. En janvier 34, il est parti à la recherche du célèbre escroc, vous savez, Alexandre Stavisky, qui était caché dans la vallée de Chamonix et qui est mort dans des circonstances dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont mystérieuses. D'un seul coup, ça me donne envie de vous en parler, mais je sais bien que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, Évidemment, il a rêvé à d'autres horizons et notamment il a rêvé de désert. Le désert l'intéresse. Le Sahara le fait rêver. C'est une terre de recherche à l'époque, le désert. C'est comme ça qu'il faut le concevoir, une sorte de grand laboratoire à ciel ouvert. En 1921, par exemple, le français Conrad Kilian est parti dans le Hoggar et a affirmé que le Sahara a été occupé jadis par la mer. Ah, donc ça, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à y apprendre sur la géologie, sur l'histoire même de notre planète. Et puis, dans les années 30, il faut dire que le Sahara est une des régions qui sont pacifiées et qui permettent aux aventuriers, comme peut l'être Frison Roche, de se promener quasiment en liberté. Alors, Frison Roche n'hésite pas une seconde, il va dire oui à Koch, bien entendu, il va participer à cette expédition, malgré sa femme, malgré ses enfants. Comme il le dira plus tard, les aventuriers sont des pères de famille et il a l'envie de découvrir le monde. Outre Koch et Frison Roche, donc, il y a trois autres compagnons de piste, Pierre Leden, François de Chasseloup-Lauba et Pierre Ichac. Ça ne s'annonce pas simple tout ça, bien entendu. Ça va durer plusieurs semaines dans une période de l'année où la chaleur est extrêmement importante. Encore une fois, une expédition aujourd'hui dans le Sahara, c'est une aventure incontestablement. Ça fait même partie peut-être des dernières véritables aventures qui sont offertes aux esprits libres de notre temps. Mais imaginez ce que ça pouvait être il y a bientôt un siècle maintenant.
Un extrait de la bande originale du film Premier de Cordée sur Europe 1. Retrouvons avec vous Franck Ferrand, Frison Roche, lors de sa première expédition au Sahara avec le capitaine Raymond Koch.
Alors ils ont un petit quart, hein, il faut les imaginer, les cinq compagnons. Nous sommes le 2 avril 1935 quand Frison Roche découvre Alger pour la première fois. Toujours intéressant d'avoir les premiers sentiments de quelqu'un qui ensuite va passer une partie de sa vie dans un endroit qu'il considérera quasiment comme un lieu d'élection. Dans L'appel du Hoggar, c'est un ouvrage qui va paraître dès 1936. Voici ce qu'écrit Frison Roche. Tout doucement, le car a démarré. Voici les faubourgs d'Alger, la plantureuse Mitidja, les gorges de la Chifa. Péniblement, le car escalade les remparts de la petite Kabylie. Médéa, pays de vignobles. Berouagia, Bogari, pays du blé. Puis, sans transition, les hauts plateaux, vastes étendues parsemées de touffes d'alpha. La route est devenue une piste. De lointains mirages décèlent les chottes émaillées de plaques de sel. Djelfa, forteresse cinglée par une bise coupante et âcre. On remonte les cols de Vest, c'est ça le sud. Il y a une économie de moyens dans ce style, il y a une sorte de pureté littéraire qui, bien entendu, vont faire le très grand succès de l'écrivain qu'est Frison Roche. Car il ne faut jamais oublier, lorsqu'on parle d'un personnage comme celui-là, que sans doute ses aventures, sans doute ses pérégrinations n'auraient-elles pas été aussi célèbres s'il ne les avait transcendées par la vertu d'un verbe constamment renouvelé et encore une fois d'une simplicité, d'une force, d'une pureté assez remarquable, d'une pureté quasi désertique d'une certaine manière et pourtant jamais rien de sec chez Frison Roche. C'est un grand auteur, hein, même s'il a été pendant assez longtemps... J'allais dire méprisé, en tout cas tenu un peu à l'écart par ceux qui font profession d'écriture, tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas peut-être partie du petit cénacle. Alors, revenons dans notre avril 1935, on sort d'Alger. Hein. Le lendemain, l'expédition continue donc vers le sud de l'Algérie. Le sable, les pierres prennent peu à peu la place de la végétation qui se fait vraiment de plus en plus rare. Il fait chaud, il fait même très chaud et la route est de plus en plus difficile à emprunter. 4 avril, depuis 48 heures, Frison Roche essaie de rejoindre le désert avec ses amis. On n'y entre pas si facilement dans le désert. Le long des routes se trouvent des squelettes de chameaux. On trouve aussi quelques tombes de pèlerins ou de marchands, hein, des tombes musulmanes qui sont là et qui émaille le chemin le 5 avril, alors qu'Alger maintenant est parti loin derrière, si je puis dire, 1800 km derrière, les collines granitiques sont là. on approche, on va enfin passer la barrière, si je puis dire. Le sable devient très blanc, les rochers se font très noirs. Puis, dans le lointain, apparaissent les premières chaînes de la Teffe d'Est, une chaîne granitique au nord du massif du Hogard. Frison Roche n'avait jamais rien vu de tel. Voilà ce qu'il nous dit toujours dans l'appel du Hogard. Puis de l'horizon brumeux, une énorme coupole de granit a surgi. Elle domine la plaine et tout ce qui l'entoure. Les plaques de rochers brillent dans un éclat métallique. Ses flancs sont parsemés d'éboulis qui lui font d'immenses taches de lèpre. Là, le car s'arrête et tout le monde descend. L'aventure va pouvoir commencer. Les indigènes sont là qui attendent les membres de l'expédition avec leurs chameaux parce qu'on ne peut pas aller plus loin avec des roues et des pneus, bien entendu. Il va falloir monter à dos de ces étranges bestioles qui vous emmènent dans le désert. On va boire du thé. Il y a des esclaves noirs qui sont très étonnés en voyant arriver Frison Roche et ses amis. Des blancs, on n'en voit pas très souvent dans le coin. Le soir, on fait un feu. Et Koch explique aux indigènes le projet de gravir la Garret El Djedoun. Seulement ça, évidemment, c'est pas du tout dans les mœurs locales. Pas question de se lancer dans une affaire pareille. Encore une fois, c'est une montagne sacrée. C'est une montagne où les génies ont élu domicile. On vous suivra pas. Pas question. C'est un lieu plein de légendes et qui ne sont pas forcément des légendes bénéfiques. L'un des les indigènes raconte par exemple que deux jeunes Touaregs d'une tribu se sont un jour laissés entraîner au cours d'une chasse aux mouflons plus loin dans la montagne. Leurs chiens sont morts dans une avalanche de pierres et l'un des deux Touaregs a fait une chute de 400 mètres. Quand l'autre est revenu, 8 jours plus tard, ça fait partie des traditions de ce qu'on se raconte le soir, hein, sous les tentes Touaregs. Quand l'autre est rentré, 8 jours plus tard, il était devenu fou. Koch demande qu'on conduise l'expédition au moins jusqu'au pied de la montagne. Le reste, eh bien, ils en font leur affaire. Le 7 avril, Koch, Frison Roche, tous ceux qui les accompagnent entament les 1200 kilomètres d'expédition à travers les dunes. Attention, je ne vous parle pas de la dune du Pila. Hein. On est en plein Sahara. Vous imaginez ces espèces de montagnes de sable tout à fait impressionnantes et qui se déplacent, bien entendu. Tout ça à dos de chameau, bien entendu, et tout ça sous une chaleur écrasante. Le lendemain matin, le 9 avril, on les voit maintenant à portée de la Garret El Djedoun. Voilà ce que nous dit Frison Roche. Nous partons à pied, ménageant nos montures. Pendant 3 heures, sans échanger une parole, nous marcherons bon train. Dans les lointains bleuâtres, une nouvelle chaîne de montagnes a surgi. Une immense barrière forme l'horizon vers l'est. Par place, des pics aigus ou des coupoles brillantes agrémentent son faîte. Tout au bout de la chaîne, gigantesque éperon dominant l'immensité des sables, la Garret El Djedoun monte la garde. Ils sont là, ils sont au pied de la chaîne, aux alentours du 13 avril. Drôle de montagne, ajoute toujours dans l'appel du Hogard notre auteur. Sur 1300 mètres de hauteur, d'énormes blocs de granit s'entassent, instables, coupés par de grandes dalles bleues et lisses. Le relief est tourmenté, nombreux ravins, gorges creusées dans la roche dure, petits ouèdes. Ce même jour, l'ascension prévue le lendemain se prépare. 85 mètres de cordes, une douzaine de pitons, des boucles à mousquetons, des bottines d'escalade en caoutchouc, on a pris des vivres pour 3 jours, 12 litres d'eau, des feuilles de thé vert, soit en tout un harnachement, un chargement de 25 kilos par personne. Mais les grosses chaussures ferrées apportées de France ont vu leur cuir se racornir à cause de la chaleur. Elles ne sont quasiment plus possibles, on ne peut plus les mettre. Le 14 avril, c'est le grand jour. Frison Roche se réveille à 5 heures du matin. À 6h10, l'expédition part en direction de la montagne. Alors Frison Roche est seul avec Koch pour gravir le massif. Une gorge étroite, profonde, sombre, taillée à même ce granit qui est d'un bleu comme Frison Roche n'en avait jamais vu. À 7h40, nous sommes à un petit col, écrit-il. L'altimètre marque 1200 mètres. Une grosse déception nous attend. 2 grands ravins nous séparent de la base même de la montagne. Jusqu'au bout, la garrette se refuse. Les courroies nous blessent. Les blocs de granit nous coupent douloureusement. Au bout d'une heure de gymnastique dans les éboulis infernaux, Koch a les pieds en sang. Finalement, après tout de même 4 heures de marche, d'aller, de retour, de contre-marche, Frison Roche et Koch arrivent au pied des éboulis de la Garette. Il doit faire au moins 65 à 70 degrés au soleil. En fin de journée, nos deux alpinistes installent un bivouac à 1800 mètres d'altitude. Ils ont, on peut dire, bu à ce moment-là la moitié de leurs 12 litres d'eau. Est-ce qu'ils ont bu la moitié de la coupe qu'ils doivent vider jusqu'à la lit? Ça, c'est une autre affaire. Je rouvre l'appel du hogard. Par moments, de longs frissons parcourent nos échines. Nous ne parlons pas. Nos lèvres balbutient d'indistinctes prières. La nuit de la Garette va commencer. La grande muraille est toute bleue maintenant, et le silence est plus profond que l'abîme a jamais creusé sous nos pieds. Le Sahara s'endort dans la voie vespérale. Sur la crête de la montagne, une petite étoile s'est allumée. Feu follet, elfe, lutin ou simplement veilleuse allumée par les djinns sur l'étrange autel où nous irons demain. Nous sombrons dans la nuit. Une nuit chaude, inquiétante, effrayante de calme et de silence. Le lendemain, on est donc là le 15 avril, à 4h du matin, il faut repartir. Koch et Frison Roche sont fatigués, quand je dis fatigués, ils sont même carrément épuisés, mais il faut y aller. Ils ne se sont pas bien remis des efforts de la veille. L'escalade continue pendant 100 mètres, nous dit-il. Une escalade franche, agréable, dans du granit bleu. Il faut cependant se méfier des pierres instables qui encombrent les prises. À notre gauche, splendide, impressionnante au possible, la face ouest, d'un seul jet, s'élève de 400 mètres. Nous avons oublié complètement le désert, la passion de l'escalade, nos vêtements européens, le contact d'une roche semblable à nos aiguilles de Chamonix et la fraîcheur relative de cette face ouest encore dans l'ombre nous ont revivifiés. Ça y est, les revoilà dans leurs Alpes familières d'une certaine manière. À 7h05, le sommet est proche et ils vont le fouler, ce sommet nord, à 7h30. Et c'est là qu'ils vont faire deux découvertes. D'abord, Frison Roche et Koch découvrent sur le sommet de maigres herbages et des oliviers nains, figurez-vous. Et puis, ils découvrent tous les deux un mouflon qui ressemble à celui des légendes qui courent sur la Garette El Jeloun. Sur l'autre rive du couloir, dressé sur un gros bloc, se détachant au bord de la pique immobile énorme, hiératique, un mouflon nous observait, crie Frison Roche. Une bête magnifique, aux énormes cornes rejetées en arrière et de côté. Une barbe fluviale s'étalait sur son poitrail gris clair, une barbe blanche, très blanche, descendant jusqu'aux genoux et se confondant avec les manchettes de ses pattes. Très intrigué, le mouflon nous fixait de ses yeux saillants, deux gros yeux jaunes qui paraissaient sans vie, le mouflon aux yeux d'or. Entre nous soit dit, je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse bien d'un mouflon. Et si jamais Pierre de Ganay nous écoute, il peut nous dire de quoi il s'agit, puisqu'à mon avis, la description de Frison Roche est suffisamment précise pour qu'il nous donne exactement le nom du dit animal. Une fois l'expédition terminée, le drapeau français planté, Frison Roche ne veut pas s'arrêter là. Il n'est pas seulement un alpiniste, il se veut un explorateur.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail avec europe1.fr, Twitter, le compte de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la première expédition de Frison Roche au Sahara.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à notre explorateur Frison Roche et à sa première expédition au Sahara en 1935.
Alors, le 19 avril, Frison Roche, avec Koch, bien entendu, et les trois autres membres de l'expédition, toute cette petite équipe va partir pour une nouvelle expédition dans le désert, cette fois pour le Saouyan. C'est une expédition qui comporte un certain nombre de difficultés. Koch a failli être mordu par une énorme vipère à cornes qu'on a finalement capturée à la fourchette, et dans la nuit suivante, des guépards sont venus et ont rôdé autour du campement. Mais on peut dire que, d'une façon générale, cette deuxième expédition va se passer plus facilement que la précédente. La soif n'est plus un problème puisqu'on trouve de l'eau dans un canyon resserré. C'est idéal, ça, pour se baigner, pour pêcher les barbeaux. Vous imaginez, c'est un rêve lorsqu'on a souffert de la chaleur et de la longue sécheresse. L'altitude est à 2804 mètres. Il fait plus frais dans cette deuxième ascension. Dans les jours qui suivent, en mai 1935, l'expédition va continuer au sud du massif de la Teff d'Est, non loin du village de Mertoutek. C'est là que, sur des blocs de granit, Frison Roche et ses amis découvrent des peintures tout à fait extraordinaires et qui sont vraisemblablement des premières époques égyptiennes. Entre nous, elles sont même peut-être plus anciennes encore que tout ça. On oublie parfois que le Sahara est aussi une terre de culture. On connaît le Tassili des Adjers, bien entendu, ces mystérieuses inscriptions, mais c'est vrai que tous ces vestiges anthropiques, comme disent les archéologues, ont tendance à l'humaniser un peu et à le rendre peut-être, à des yeux historiques comme les nôtres, plus intéressant. Alors, il y a des chasses au mouflon, à l'autruche, à la girafe, à l'éléphant. Il faut aussi parler de combats guerriers avec des cavaliers, des bœufs, des lions, des chevaux, des moutons. Tout ça sur ces peintures, sur ces décors assez extraordinaires. Des personnages avec les têtes coiffées d'un grand cercle blanc dont, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas tout à fait percé le mystère. Des couleurs variées, des bruns, des rouges et des violets. Dans une grotte, le plafond est peint, les rouges, les ocres, les blancs, les noirs dominent. Ça fait une sorte de fresque absolument merveilleuse et tellement inattendue là où elle est. Ça représente un troupeau de bœufs conduits par des hommes rouges, minces, entièrement nus, casqués. On peut dire que c'est quasiment la révélation d'un âge d'or qui nous est ici révélé par rapport à la sécheresse désertique qui depuis très longtemps s'est emparée des lieux. Notre étonnement provient de la qualité du dessin, écrit Frison Roche. Les bœufs ont de grandes cornes en forme de lyre. Les courbes en ont été tracées par une main d'une habileté inconcevable. Les proportions sont exactes. L'œuvre tient de la fresque égyptienne ou de la vieille estampe japonaise. Ce que nous venons de découvrir, c'est la preuve indéniable de l'existence à une époque très reculée, une époque préhistorique d'une race très civilisée. Ne venons-nous pas de trouver au cœur du Hogar le berceau des races berbères? C'est en tout cas une question que pose Frison Roche. J'aime bien ce style et j'aime bien ce ton. Ça me rappelle, quand j'étais tout petit, les grandes soirées à Connaissance du Monde, qui étaient des conférences avec des films, etc. On allait suivre ça dans la touffeur des lundis soirs. À son retour, Frison Roche, qui est tout à fait fier de ses exploits et de ses découvertes, vous l'avez entendu, il reste impressionné, il n'a jamais vu ça. Il dira, dans Carnet saharien, « Cette découverte a été la plus grande aventure de ma vie. » Voilà, au moins c'est dit. À l'origine de ce que je suis devenu, il y a eu cette marche lente, sans commencement ni fin sur cette terre d'éternité, où le rêve et l'aventure, où la vie et la mort, le présent et le passé, la terre et les étoiles alternent définitivement pour composer une ardente symphonie ponctuée par le chant du vent dans les dunes du Grand Erg ou les orgues de pierre des Tassili, tout à coup brisés par le plus profond des silences, ce silence des espaces infinis. Je ne puis mieux comparer la cime de la Garrette qu'au pont désert d'un immense paquebot à l'ancre. Nous y sommes parvenus le long de ces flancs lisses où des nids d'oiseaux de proie faisaient des ronds blanchâtres comme des hublots. Là, on est bien chez le poète, au moins autant que chez l'aventurier. Il a envie de raconter, bien sûr, tout ce qu'il a vécu. Ça tombe bien. À son retour du Hogar, il achète chez un bouquiniste un manuscrit rare de 1830, édité par l'Institut royal de géographie à l'époque de Charles X. Il s'agit du journal de René Caillé, dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici. Vous savez, Caillé, le découvreur de Tombouctou au moment de la Restauration. Ce premier grand livre et récit de ses aventures dans le Sahara, Frison Roche, qui s'inspire de Caillé, bien entendu, va l'intituler « L'appel du Hogar », donc. Il sort en 1936 et on peut dire que Frison Roche est le premier écrivain à faire connaître au grand public l'existence de peintures rupestres dans le Sahara central. Oh, j'aurais tendance à aller plus loin. Et je dirais que Frison Roche est sans doute le premier auteur à avoir fait partager pleinement au public la fièvre de l'aventure. Bonjour Marc Menant.
Bonjour
Franck. La fièvre de l'aventure, vous l'avez, vous, et vous l'avez fait parcourir aussi aux auditeurs d'Europe 1 pendant des années. Nous y venons avec vous, on va parler de Frison Roche et on va parler de tout ce que représente un homme et une vie comme ceci.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Symphonie alpestre de Strauss sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'alpiniste, explorateur et écrivain Frison Roche, avec votre invité Marc Menant, qui est journaliste et écrivain.
Alors Marc Menant, ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est que vous l'avez rencontré, Frison Roche. Ça a fait une supériorité sur nous qui sommes là dans ce studio.
Disons que c'était un personnage qui marquait effectivement, et on avait monté le magazine de l'aventure sur TF1. Et comment ne pas inviter ce personnage mythique? Ce qui est intéressant chez Frison Roche, il y a cette dimension de l'écrivain qui met en connivence le lecteur avec les grandes étendues. C'est-à-dire que souvent, le narrateur qui a eu la chance de vivre des moments exceptionnels, bien que lui pudique, Frison Roche était capable de nous faire entrer dans la peau du héros qui osait s'affranchir de tous les interdits et franchir l'impossible. Et donc on avait pris contact avec lui pour le recevoir et émerveiller les téléspectateurs. C'était la première émission d'aventure à la télévision. Il a continué après avec Pierre-François Aldo-Georges sur les carnets de l'aventure. Mais ce qu'il, tout à l'heure, vous avez cité les conférences de connaissance du monde.
Sûr, oui.
Et connaissance du monde ont contacté Frison Roche lorsqu'il avait sorti ce premier de cordée qui lui vaut la notoriété. Et il est tellement étonnant qu'on lui dit « mais vous pourriez venir chez nous ». Et la première conférence est un bide gigantesque, parce que il a effectivement la force des mots, mais malheureusement, il n'a pas de film. Et la télévision n'a pas la toute puissance d'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont leur poste en noir et blanc, et les gens viennent. Bien évidemment, ils sont portés par le narrateur, mais il leur faut quand même ce transfert à travers l'image.
Un support visuel.
Et alors là, il va repartir dans le hangar, mener une expédition avec son ami, pour pouvoir ensuite faire véritablement rêver, dépayser les spectateurs. Et ça, sa deuxième carrière, je dirais, qui va le guider dans d'autres voyages. Mais il faut revenir peut-être à ses débuts, parce que c'est un homme qui est imprégné, je dirais, d'une sorte de malheur d'un côté et de l'autre côté de la chance. Pourquoi le malheur ? Bien, il naît dans une famille où on essaie de vivoter, on est marchand de vin pas très loin de l'Élysée. Mais vous savez, ce sont les générations où les Auvergnats et les Savoyards sont les émigrés. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Malheureusement, son papa va mourir très tôt, son frère aîné va mourir très tôt. Il va se retrouver avec sa maman et dès l'âge de 14 ans, à nouveau le sort le fauche, parce que papa étant décédé, il lui faut quitter l'école. Alors qu'il se montre plutôt très curieux et bon élève. Il ambitionne de retourner un jour dans les Alpes, mais en tenant un rôle. Il ne sait pas encore quoi, mais il veut vivre grand. Ça l'habite, ça l'anime. Et là...
La montagne...
Ah ben, ça le hante, mais il n'en reste pas moins. Ouais. Il est à Paris, et quoi faire? Alors, de temps en temps, néanmoins, il y a les vacances. Alors, on va rejoindre la famille là-bas, dans le Beaufortin, et le gamin connaît les plaisirs de la solitude, parce qu'il a cette force de caractère très tôt. Il sait se camper, il sait se dresser, il sait se carapassonner, se créer donc une force intérieure qui va tant le servir dans les aventures qu'il s'offrira. Mais là donc, le voici obligé de travailler. Par chance, il trouve un poste de groom dans une agence de voyage, Thomas Cook. Et que voit-il ? Il y a les dépliants, les voyages. Mais quand on est qu'en classe de troisième, on manque de culture. Alors le voilà, qui les feuillette, ses images l'animent et il lui faut aller plus loin d'une image, il se plonge dans le dictionnaire qu'il va débusquer chez les bouquinistes. Ça lui permet de découvrir des terres et puis il y a les langues parce que déjà on s'adresse aux touristes étrangers. Il va apprendre l'anglais, il va apprendre l'italien. C'est donc, vous imaginez, cette force de caractère inouïe qui fleurit très très trop chez cet enfant. Et à 17 ans néanmoins, la vie parisienne...
On est quand là, à 17 ans, il est né
On est aux alentours de 1920,
oui.
À peu près. Puisqu'il sera l'un des correspondants au moment des premiers Jeux
Olympiques,
Olympiques
de 24.
De 1924. Mais donc, le voilà qui part à 17 ans à la montagne. Mais à la montagne, on n'a pas besoin de lui. Bon, garçon de vache, c'est pas un métier en tant que tel. Et puis ce sont les paysans qui vivotent comme ça. Il va trouver une place au syndicat d'initiative. Et il va pas en manquer d'initiative, si je puis me permettre ce jeu de mots. Il se multiplie tellement qu'il devient vite un personnage remarqué et remarquable. Et puis, il a cette passion pour cette montagne. On est dans cette époque où tout est à conquérir. C'est à qui aura son piton. Et lui va inventer les... Tout à l'heure, quand vous évoquez le hogard, ses parois verticales, il va être un roi de la verticale. Il va inventer le pitonnage. Il va avoir des techniques bien à lui qui vont lui valoir pas mal de premières. Et ça...
C'est-à-dire qu'en fait, il réinvente un peu l'alpinisme au passage et il va rendre accessibles des parois qui jusqu'alors étaient considérées précisément comme infranchissables. On était obligé de faire le tour.
Hein. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va se faire admettre par les guides chamoniards. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de secte, entre guillemets, secte de la montagne, où on estime que les étrangers n'ont rien à voir dans ce domaine où les dieux ont si longtemps régné et où l'homme maintenant perce grâce à la tradition et aux gens du cru. Mais lui, bah, le Beaufortin et le gars qui a vécu à Paris, il n'est pas vraiment de la famille. Eh bien, pour autant, il sait se rendre indispensable. Il est là d'abord le porteur. Il accompagne les uns et les autres. Il ne râle jamais. Et plus étonnant encore, il chante. Vous savez, il y a les maçons italiens qui, sur les échafaudages, sont là à s'égorger et qui égayent.
S'égosiller et à
siffler.
Voilà,
voilà, voilà. Eh bien, lui, il fait ça dans la montagne, même quand le souffle lui manque. Et sa grande première au Mont Blanc, c'est au mois de septembre 1925, où là, il accompagne, entre autres, un personnage qui s'est déjà offert nombre de sommets, qui s'appelle Le Rouge. Et Le Rouge, c'est sa dernière. Et ils sont ensemble, et il y a toute une symbolique. Le Rouge, pour les derniers mètres de ce Mont Blanc, qui est encore très difficilement franchissable, lui dit à toi, petit, à toi d'être devant moi au sommet. Et c'est là une sorte de passage de témoin. Et il va continuer donc à progresser. Il sera le premier étranger à devenir guide de Chamonix. Pour autant, ça ne lui suffit pas pour vivre. Et c'est pour ça qu'il reste au syndicat d'initiative. Et c'est... Pour l'anecdote, c'est intéressant, parce que comme il fait toujours preuve d'imagination, il veut toujours être novateur, comment rendre ce Chamonix joyeux et attirer les étrangers, il s'intéresse à une brochure, il demande à un dessinateur de faire une caricature.
Et c'est caricature d'un aubergiste.
D'un aubergiste. Mais le type est furieux, il est avec sa cigarette au bar, il a l'impression d'être ridicule. Eh bien, vous voyez déjà à l'époque... Les caricatures.
Ah, je me demandais où vous vouliez en venir.
Mais oui, parce qu'il va perdre sa place. Il va être renvoyé du syndicat d'initiative. Et c'est là que, par chance, il va être adoubé pour devenir chroniqueur au Petit Dauphinois. Et que sa plume va s'exercer. Et que, tout à l'heure, vous évoquiez Stavisky.
Oui.
L'escroc.
Le scandale, bien sûr, oui.
Et quand je vous parlais de la chance, c'est incroyable. Parce que donc, au départ, il est tout seul. Et il y a un petit cheminement comme ça, les petits clins d'œil de la vie. Et Stavisky, la France entière, où est-il? On apprend qu'il est dans cette région de Chamonix. Il est le premier déjà à le situer. Et puis, le jour où le bel Alexandre se met une balle dans
C'est-à-dire
la tête...
C'est-à-dire Stavisky.
Stavisky. Il a la chance, lui, de connaître le docteur Jeannin, qui se retrouve avec cet homme agonisant. Et imaginez, vous êtes un jeune journaliste.
C'est ce qu'on appelle le scoop.
Voilà. Et il va, pendant toute la nuit, se trouver à côté de Stavisky. Et de temps en temps, quand il a l'impression qu'une paupière s'ouvre, que cet homme qui s'est tiré une balle dans la tête, ou à qui on a tiré une balle dans la tête, le canard
Rochelet. Plutôt, probablement, oui.
Enfin bref, il essaie de lui parler. Il lui dit « Parlez, Alexandre, parlez, dites-moi !» Il n'aura pas le moindre mot, mais en revanche, il va raconter tout ce qui s'est passé avant qu'un gendarme lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes infirmier ?» Il dit « Non, je suis un homme. Dors, dors, dors !» Mais c'est donc la révélation d'un jeune journaliste pour le monde de la presse. Et c'est ce qui le fera connaître aussi et qui conduira un rédacteur en chef d'Alger à venir le cueillir dans ses montagnes et à lui demander de venir habiter à Alger et de devenir l'un de ses journalistes.
C'est en tout cas déjà ce qui a conduit Koch vers son auberge, parce qu'entre-temps quand même il est devenu aubergiste à son tour.
Parce que c'est
une brasserie, disons.
Oui,
il a une brasserie.
Alors, ça c'est un héritage.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il se marie avec Marguerite. Marguerite, c'est la femme qui va l'accompagner. C'est un homme d'une grande fidélité. Alors je ne sais pas, parce qu'il avait trop de pudeur et même il était impossible d'évoquer cela avec lui. Il n'en reste pas moins qu'il a tellement bourlingué, qu'il a passé tellement de nuits solitaires, qu'il a été tellement courtisé par ces dames, n'aurait-il pas eu quelques dissidences? Toujours est-il qu'officiellement, il n'y a eu que Marguerite qui lui passait tout, qui admettait tous ses caprices, tous ses délires, qui l'accompagnait, l'encourageait à toutes les extravagances, à tous les voyages. Et elle avait une famille qui était plutôt aisée, entre guillemets, et qui a offert en dot de mariage ce café de la Poste, cette brasserie de la Poste, où il est celui, bah, je dirais un peu, le vautour du quotidien, celui qui attend et qui butine ainsi les informations qu'il peut ensuite proposer aux petits dauphinois.
C'est ici que s'inscrit la première grande expédition donc dans le Sahara, ce que je vous ai raconté voilà, tout à l'heure, qui va donner naissance en 1936 au retour à l'appel du Hogard. Roger Frison-Roche est devenu à ce moment-là, on peut dire, un auteur reconnu, et c'est le début d'une grande carrière que nous allons raconter maintenant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est l'explorateur Frison-Roche qui est au cœur de l'histoire et pour en parler avec vous, Franck Ferrand, c'est le journaliste écrivain Marc Menant qui est votre invité cet après-midi.
Du haut explosif, dit Stéphanie, je ne sais pas comment elle
entend ça. Effectivement, puisque nous avons pas mal de réactions de nos auditeurs.
Alors oui, beaucoup, beaucoup de réactions, je ne peux malheureusement pas citer tout le monde. On me parle de la trilogie sur le désert, bien entendu. Je ne peux pas vous donner tous les messages, mais alors beaucoup de bien des auditeurs se demandent si l'on peut mettre Frison-Roche au même niveau qu'un Herzog, nous demande, ou un Saint-Exupéry, etc. C'est un grand auteur d'aventure, Marc Menant.
Non, il n'y a pas de comparaison avec Herzog. Herzog, c'est un montagnard qui un jour trempe la plume comme ça, mais il n'a pas cette envergure.
Littéraire.
Oui. Non, mais il n'a pas cette envergure littéraire. Au niveau de la montagne, Herzog, c'est également un politique qui va partir avec une expédition, qui va savoir l'expédition. Mais on ne peut pas dire que ce soit le montagnard exemplaire, alors que Frison-Roche, il n'a pas été l'homme d'une montagne, il a été l'homme des montagnes. Il a réussi des premières, celles que vous avez évoqué tout à l'heure dans le Hogard, il a réussi nombre de premières dans les Alpes. Et puis côté plume, on est plus proche effectivement d'un Saint-Exupéry. Ce sont des gens qui vous placent dans la connivence. Quand vous lisez Terre des Hommes, que vous avez Saint-Exupéry qui raconte comment il se retrouve dans le désert avec Prévost après avoir eu cet accident d'avion, qu'ils n'ont plus rien à boire, qu'ils vont jusqu'à s'imprégner du reste du contenu d'un réservoir, eh bien c'est ce que l'on vit avec Frison-Roche dans le Hogard. Il est là. La soif qui le tenaille, la montagne qui le toise. Est-ce que l'on repart avec Koch? Est-ce que cette montagne, elle est inaccessible? Est-ce qu'il y a ces génies qui, effectivement, sont là pour venir les empêcher de réussir une première? Non, il faut tenir. Rien ne doit détourner l'homme. Il faut, en plus, parce qu'il est très nationaliste, montrer à ces gens qui ont refuser de les accompagner parce que cette montagne était mythique, leur montrer que l'homme blanc est capable de l'exploit. On n'a pas le droit de se soustraire.
Alors un grand nombre de nos auditeurs ont des souvenirs de lecture. Et c'est là qu'on voit quelle peut être la gratitude dont on témoigne envers ceux qui nous ont fait voyager par l'esprit. C'est extraordinaire. Sylvie, elle, est allée de nombreuses fois dans le désert algérien et elle dit que toutes ces sensations lui reviennent grâce au récit que peut en faire Frison-Roche. Alors, il est lui-même à Alger avec sa femme, au bout d'un moment, pendant la guerre, en fait.
Alors, c'est avant la guerre, c'est 1900, après le Hogard. Oui. Il a cette proposition du rédacteur en chef d'un des plus grands journaux d'Alger et il va devenir, pour la première fois, on n'est plus à la pige, il devient un journaliste. On lui propose même d'être rédacteur en chef, il dit non. Moi je suis et je veux rester l'homme de la liberté, je veux avoir les fantaisies et les pulsions qui me conduiront à étonner les lecteurs. Et c'est à partir de là qu'on lui demande, alors d'abord il est mobilisé, il va se retrouver dans l'armée française et à nouveau dans les Alpes où il va accompagner le capitaine Bull. Et au sommet du col de la Seigne, ils sont là un tout petit noyau de farouches qui refusent que les Italiens puissent rejoindre les Allemands. Ils sont sur un piton, ils ont pris des risques énormes et avec simplement deux mitraillettes, ils arrivent à empêcher cette jonction entre qui permettrait la fédération entre les troupes italiennes et les troupes allemandes. Ensuite, malheureusement, il va être fait prisonnier. Il va revenir en Algérie, où il servira de compagnon journalistique, je dirais, de l'armée américaine qui vient de débarquer. Il prend place à bord d'un char, et là, malheureusement, il est en tête de la colonne. Le char est visé par l'armée allemande et ils sont miraculeusement indemnes avec...
Mais sauf mes prisonniers.
Mes prisonniers.
Ah oui.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un canon français qui avait été récupéré par les Allemands et qui a valu cette mésaventure à Frison Roche. De là, il va être conduit en Italie, condamné à mort. Miraculeusement, de prison en prison, il se retrouve à Vichy où un commissaire le reconnaît. Frison Roche, partez, fuyez! Il va rejoindre le maquis ou par
là. Il va entrer dans la résistance. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été très fidèle et très fervent du maréchal Pétain.
Complètement. Hein,
ça,
mais sa fille le dit.
Comme beaucoup
d'ailleurs.
De Français, d'ailleurs.
Oui, mais alors imaginez. De la même façon qu'il a été étranger au mouvement de 36, quand il parlait de cela, il disait, mais moi, j'étais un paysan. Tout ce monde en bouleversement, ce monde de l'industrie, je l'ignorais. Et il avait cette fierté nationale. Et Pétain représentait la victoire de 1918.
Alors
donc,
justement, on voilà. reviendra là-dessus. C'est pour ça que je fais cette incise, c'est que nous consacrerons jeudi une émission au maréchal Pétain avec l'un de ses secrétaires qui est toujours en vie et que nous sommes allés interviewer chez lui. Donc on fera une émission spéciale, si je puis dire, avec un document sur l'intimité du maréchal Pétain à Vichy. Je ferme cette parenthèse, c'était le teasing de la semaine, Marc Menin.
Très bien. Et de pétainiste, il va devenir un gaulliste.
Alors
convaincu,
oui, très fervent aussi.
Fou. Et il va risquer sa vie jusqu'au dernier moment. Et lorsqu'il est maquisard, il se sert de son cousin qui possède des alpages et il joue au fermier. Il y a quelques Allemands qui passent, soldats allemands, qui l'observent. Alors, il fait semblant de travailler la terre, de donner à manger aux vaches. Mais on s'aperçoit que ces mains-là ne sont pas des mains de travailleurs, qu'ils portent une alliance et que cela ne correspond pas donc à celui qui est habitué à ce type de tâches. Mais il arrive à trouver la ruse pour fuir avant d'être arrêté de nouveau.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à cette boulimie incroyable de vie, à cette volonté de constamment s'accaparer l'impossible, hein, c'est l'aventurier par essence, à tout ça, se joint une sorte de sobriété dans le style et dans la façon d'en parler. Son style est tout en retenue.
Oui, mais vous avez vu tout à l'heure, quand vous le citiez, il cisèle.
C'est
peintre. C'est-à-dire qu'il donne une âme. Moi, j'aime le souffle. Alors, bien sûr, on a les grands du souffle comme Céline et autres. Mais là, ce sont des personnages qui, à petites touches, vous placent dans des situations. Et de telle sorte que vous êtes imprégné, vous vous êtes propulsé dans l'action qu'ils ont décidé de vous faire vivre par procuration. Parce que c'est ça. On est avec lui dans le désert.
Je le disais en ouvrant cette émission, l'ouvrage le plus célèbre, c'est évidemment Premier de Cordée. Ça a été un succès phénoménal. Il faut dire que l'époque était porteuse, paradoxalement, puisque ça a offert du rêve aux
gens. C'était un feuilleton au départ. On en revient au journal ? C'est-à-dire qu'il y a son rédacteur en chef, les ventes ne marchent pas terribles, on est au début de la guerre, dites donc, il faudrait faire quelque chose. Alors cet homme qui maintenant est là tournicoté par le désert, il se rappelle de sa montagne, il a un peu de nostalgie, il va raconter Premier de Cordée en feuilleton. Et ça marche tellement qu'il contacte Artaud, dont il avait été le moniteur de ski de ses enfants. Il lui envoie les chapitres qui étaient passés successivement au quotidien dans le journal et lui dit « Est-ce que ça ne ferait pas un livre ?» Et dans les 48 heures, il a la réponse. Artaud a dévoré ça dans la nuit. Il a senti que c'était un coup, que c'était un livre.
Ouais. Et non seulement un livre, mais ça va devenir un best-seller. C'est adapté une première fois au cinéma. Je dis une première fois parce qu'ensuite il y a eu plusieurs adaptations. C'est un véritable, c'est la grande aventure du XXe siècle.
C'est la grande aventure. Il est même parmi les favoris du Goncourt. Il n'obtiendra pas le Goncourt parce que celui qui sera élu était un ami du maréchal Pétain. Donc on lui retire cela. Et pour autant, il souffrira toujours de ne pas avoir été. Tout à l'heure, vous parliez du sérail, mais parce que c'est un homme d'action et les écrivains, le monde littéraire, aiment bien les personnages assis.
Et
or,
oui.
lui...
Lui n'est jamais assis.
Il n'est jamais assis. Par conséquent, les critiques...
Il ne fait pas partie du petit monde germano-pratin.
Et c'est grâce à Jacques Chancel, c'est grâce à Pierre Desgros, Pierre Dumayet, ces gens
à des hommes de télévision.
De télévision qu'il obtiendra ce sacre en dehors de la vente des livres, ce sacre littéraire.
Oui, parce qu'il a été quand même non seulement un best-seller absolument incroyable dans l'après-guerre, mais il a été aussi, on peut dire, l'enfant chéri de la première télévision, de la télévision héroïque, hein, bien entendu, avec des documentaires extraordinaires.
Et alors, il continue de voyager. Il ne s'arrête pas. D'abord, il va visiter l'Europe bouleversée, raconter en ethnologue comment elle se redresse, cette Europe. Et puis, il va aller en Laponie, rencontrer les Esquimaux.
Ça, c'était son vieux rêve.
Et quand on lit, là aussi, On se retrouve sous l'igloo, les esquimaux, les bêtes qui sont là déchiquetées, parce que pour éviter le froid, c'est à l'intérieur, dans le lieu de vie, que l'on dépèce. Et il dit, c'est une horreur absolue, on est au milieu de ces viscères, et pour autant, il faut bien dormir.
Là, on ne peut penser qu'à Paul-Émile Victor, bien entendu, mais vous avez cité tout à l'heure, nous avons cité Maurice Herzog, il faudrait bien sûr faire la part un peu différente du commandant Cousteau. Quand même, de grandes personnalités qui, dans ces années 50 et 60, font rêver les Français.
Hein. C'est l'époque où on échappe, je dirais, à notre monde rural. On a quitté les campagnes où à 20 km de là, c'était déjà l'étranger. Et lui, ses parents, c'est ce qu'il s'était déjà fait.
Oui,
hein,
oui.
De la montagne à Paris.
À Paris.
Et on a cette foi, cette soif, cette boulimie de connaissances, d'où connaissance du monde.
Et l'on a aussi ce sens de une certaine élégance de la relation. Je pense à la qualité des titres de Frison Roche, hein. La lumière de l'Arctique, le rapt, la dernière migration, premier de cordée donc bien entendu, la grande crevasse qui est la suite, retour à la montagne, le versant du soleil, Djebel Amour, l'esclave de Dieu, bivouac sous la lune, la piste oubliée, la montagne aux écritures, le rendez-vous des Sandilaines. Tout ça c'est quand même il y a une sorte de génie du titre.
C'est vrai, mais ça, c'est le sens de la métaphore, encore. Ce côté peintre de l'écriture. Et alors, Djebel Amour, c'est un hommage à Mademoiselle Picard, Aurélie Picard. C'est un livre à relire, parce que c'est extraordinaire d'imaginer qu'une femme, dans les années 1900-1800, va se retrouver princesse du désert, mariée à un autochtone qui est là, qui accepte en quelque sorte, alors qu'on est dans une terre où en général les femmes sont inférieures, il en fait une véritable impératrice du désert.
On ne peut pas évoquer Frison Roche sans citer cette biographie qui vient de paraître chez Artaud d'Antoine Chandelier qui raconte en fait, alors là c'est toute la vie de Frison Roche, avec beaucoup d'extraits hein, du reste.
C'est vrai, mais j'avoue qu'il faut reprendre l'œuvre.
Oui, l'original.
Bah oui, l'original, il fait ça merveilleusement bien. Dans tous ses livres, on est en connivence avec lui. Là, il y a une sorte de survol et prenons le temps. Voyageons avec Frison Roche, compagnonnons avec lui.
Il était resté bon pied, bon œil, quasiment jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Vous l'aviez interviewé quand c'était quand
C'était dans 1979-1980, mm-hmm. quand on a créé le magazine de l'aventure.
Il ne mourra que 20 ans plus tard.
20 ans plus tard, mais il est gaillard jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a les 10 dernières années de sa vie où il ne skie pas. Sinon, il emmène toute la famille. Alors, il avait inventé, vous savez, ces manières incroyables du virage en montagne. C'est-à-dire que vous vous délestez, vous sautez, etc. Et il avait du mal à admettre qu'il y ait des techniques plus moderne dans un premier temps et il a infligé cela comme méthode à ses petits-enfants avant de passer à la modernité. Faites comme papy, il faut savoir cette façon donc de se détendre et de tournicoter en l'air.
Dans un autre registre, Marc Menant, je rappelle que vous êtes l'auteur de La laïcité dévoilée. On va parler de laïcité ce soir dans le club de la presse d'Europe 1. Eh bien, La laïcité dévoilée, c'est disponible sur Internet. Il suffit d'aller à www.marcmenant.fr. Ça a été un gros succès la dernière fois et je suis ravi que vous ayez beaucoup de lecteurs.
C'est vrai. Et puis, je ferai un petit tour chez Cyril Hanouna tout à l'heure.
Eh bien voilà, bien entendu.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Emeric sur l'origine du terme Poufini.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question d'Emeric, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait que vous reveniez sur l'origine de l'expression Poufini, une expression que vous employez souvent, c'est vrai.
Oui, alors c'est vrai, pardon, j'ai comme ça quelques mots qui reviennent toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs, parce qu'une fois que je l'ai lu sous votre plume, généralement je fais un peu plus attention. Alors là, le problème c'est que c'est très difficile à dire. D'où ça vient, c'est compliqué. Autrefois, un Poufini, c'était un jeune soldat à la peau claire, rosée et imberbe, me dit-on. C'était dans l'argot de Saint-Cyr au 19e, voyons, on disait un Poufini, c'est-à-dire c'était un petit muscadin, si vous voulez. Et puis, en 1889, arrive le terme Poufini, on disait d'ailleurs se peaufiner. Se peaufiner, c'était bien faire sa toilette de façon très léchée, très, très soignée, prendre soin de sa peau, etc. Et ce n'est qu'au 20e siècle, mais alors ne me demandez pas exactement quand, qu'on a employé ce terme Poufini sans le préfixe pour simplement dire polir une surface avec une peau de chamois, établir une finition, fignoler si vous préférez.